Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gones qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de G comme Odéon, une émission conçue par des passionnés de belles rencontres. Bien décidé de laisser les fracas du monde quelques minutes pour partager avec vous de belles histoires de création. Cette semaine, Guillaume sera accompagné de l'artiste lyonnaise Olga Bost et ils parleront de son premier EP, Direction Super Glam. Gaël nous fera gravir la colline de Fourvière à la rencontre du légionnaire romain à la fin du 2e siècle après Jésus-Christ, Bricius Maximus. Thomas nous proposera, après le soleil plouc, la semaine dernière, une expérience littéraire dans le sillage d'une pelouse vengeresse. Restez avec nous pour cette lecture. Les mots de Richard Brautigan vont certainement vous surprendre. Nous débutons avec toi, Guillaume, et notre première invitée, Olga Bost. Je crois que l'on va parler de glam rock anglais des années 70 et 80 et d'un style très personnel pour cet artiste à suivre. Merci d'être avec nous pour cette émission.
Bonjour Olga.
Bonjour,
c'est
Guillaume.
Bizarre de t'appeler Olga parce qu'évidemment on va évoquer pourquoi ce nom. Alors moi j'enseigne le français donc je sais un petit peu quelles sont les références puisque Olga Bost en fait son vrai nom, alors je me rappelle plus son nom ukrainien, je crois qu'elle est née à Kiev. Voilà, c'est quelqu'un qui a été très 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 proche de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. C'est le premier trouple, comme on dit aujourd'hui, de l'histoire de la littérature. Alors pourquoi ce choix ? C'est quand même un choix un peu particulier et militant, si j'ose dire.
Très bonne question, Guillaume, pour commencer. Je l'ai découvert dans le roman de Simone de Beauvoir, L'Invité, et c'est un personnage qui m'a tout de suite saisie, puisqu'elle arrive dans ce monde cultureux parisien, assez peu sûre d'elle, et elle est très influençable, elle se fait complètement subjuguer par la personnalité de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. Et moi, j'ai un parcours assez particulier. Je viens du monde de la médecine, j'ai un master 2 en médecine et j'ai fait un double cursus au conservatoire sur la fin de mes études. Et je suis arrivée dans ce monde culturel assez naïve, sans rien, sans défense. Et je me suis pris beaucoup de claques, de culture, d'histoire, de littérature. Et je me suis beaucoup retrouvée dans ce personnage. Donc j'ai choisi ce nom
particulier. Ouais. Alors c'est toi, mais il y a quand même sur scène, il y a d'autres musiciens avec toi. Et puis sur l'EP qui vient de sortir, tu peux nous parler de cet EP parce que c'est quand même étrange. Quand on lit un petit peu pour te décrire, on dit entre Michael Jackson et Philippe Catherine. Mmh. J'avoue que c'est un petit peu étrange quand même comme duo. Hein. Alors, quel type de musique ? Alors évidemment, le disque s'appelle Super Glam, donc on s'attend à ce que ça soit quand même très coloré.
J'ai toujours été entre deux mondes. Je pense qu'on est plein de personnalités à être comme ça. Donc déjà, il y a plusieurs questions. Pour commencer, la première question, c'était effectivement, on est plusieurs sur scène et je suis toute seule à composer. Olga Bost, pour moi, c'est un personnage un peu universel aussi puisqu'on est tous le naïf de quelqu'un. On a tous tout à apprendre. Et je me sens toujours dans ce truc-là à m'inspirer de ce que j'entends, de ce que je vois pour créer mon truc. Après, effectivement, en termes d'esthétique, je suis en quête constante et c'est ça qui m'intéresse dans la musique, j'aime bien l'idée d'être influencé par des choses qui n'ont rien à voir. Même moi, je m'y perds, je vous avoue, parfois. Mais en tout cas, entre Michael Jackson et Philippe Catherine, c'est deux personnes qui ont été là pour moi à différents moments de ma vie. Michael Jackson, pour moi, c'est la danse et je danse depuis que je suis toute petite. J'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai un rapport au corps qui est très lié au rythme, à la danse. Et donc voilà, Michael Jackson. Dans la musique que je fais, j'ai besoin de me dire que c'est une musique qui fait danser. Mais c'est tout un chemin, c'est-à-dire qu'en fait j'apprends à créer ça, à créer cette pulsion qui donne envie de danser, et je pense que je suis pas encore là, c'est plutôt pour le prochain EP, mais en tout cas cet album, c'est donc ce double EP, c'est l'histoire de ce rapport que j'ai à la danse.
En fait il y a quand même un vrai rapport avec Philippe Catherine parce que moi je l'avais vu au Nu de Fourvière quand il était avec sa pianiste polonaise, je crois, enfin voilà, et il était tout en vert et ça dansait, en fait il danse beaucoup et c'est quand même un sacré personnage.
Ouais, et ce que alors c'est vrai que moi Philippe Catherine je l'ai plutôt découvert dans ses 52 reprises, c'est mon colocataire qui me l'a fait découvrir, et j'ai été saisie de sa naïveté vraiment de premier abord, et je sais qu'il a influencé énormément d'artistes actuellement. Et moi, ça, voilà, ça, Philippe Catherine m'a énormément influencé de ce point de vue-là, dans le rapport au texte, dans les jeux de mots, dans mes chansons. Il y a quand même toujours un second degré que j'apprivoise depuis toujours.
Pour revenir au titre, le glam, on imagine, voilà, alors quand on pense le glam rock, on pense à T-Rex, on pense à Bowie, ouais. Enfin, on pense aussi à des costumes, voilà, ouais. Donc évidemment, sur scène, tu joues un rôle un petit peu, enfin voilà, tu mets vraiment en scène.
Ouais, en solo, c'est ce qui c'est plus difficile, mais effectivement, avec toute l'équipe, j'ai vraiment un costume, on a demandé à une couturière de nous fabriquer des costumes, on a dépensé énormément d'argent personnel, et finalement, c'est pas encore ça, parce qu'on a réalisé, j'ai été voir à Paris l'exposition Thierry Mugler, je suis allée super loin dans l'idée, et en fait, j'ai bien réalisé qu'on n'avait pas du tout les moyens d'avoir des costumes comme ça, donc pour l'instant, je suis encore assez frustrée sur l'histoire des costumes. On y travaille et puis le style évolue aussi. Là, Michael Jackson, oui, mais aussi Crystal Waters, qui est une figure des années vraiment 90 de la dance. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps chez moi quand j'étais petite, à 10 ans. Je me faisais des emplois du temps le week-end pour faire mes chorégraphies sur de la dance music et j'ai envie de retrouver ça dans mes compos. Donc là, en ce moment, je suis en train aussi de rebosser ça. Donc voilà, ça évolue et effectivement, le glam, moi, ce qui me plaît dans ce truc du glam rock, c'est que moi aussi, j'ai toujours rêvé de me travestir en femme, alors que je suis une femme. Et que je me suis toujours dit que j'avais l'air d'un homme, et que je serais sûrement plus belle si j'étais un homme. Et donc, il y a toujours ce jeu aussi androgyne, et on joue tout le temps avec ça. Les musiciens d'Olga Bost ont aussi un côté un peu androgyne. Donc, il y a ce jeu, mais qui est assez délicat, qui n'est pas tranché. On est toujours un peu sur le fil avec ces histoires.
Alors, pour revenir à l'EP, donc, c'est un peu particulier parce que tu as annoncé un EP de 6 titres, puis finalement, il y a une sortie physique avec d'autres titres. Tu peux expliquer un petit peu ce tour de magie ?
Le tour de magie, c'est pour qu'on achète mes disques. En fait, ce double EP, à la base, je voulais arriver avec un album. Je sais pas, je m'étais dit, waouh, c'est comme ça qu'on doit arriver, on doit avoir vraiment travaillé le truc. J'ai commencé à composer fin 2020, en décembre 2020, en me disant, j'ai pas de style particulier, je veux me laisser influencer par toutes ces personnes. Et ça a donné ces 12 titres. Sauf que ces 12 titres, ils ont rien à voir entre eux. Enfin, y a, esthétiquement, j'ai l'impression que c'est difficile à défendre pour me faire programmer, en fait, tout simplement. Donc je me suis dit, je vais rassembler celles qui ont une esthétique commune quand même, qui sont faciles à défendre. Et puis quand on débarque dans le milieu musical avec un album, c'est peut-être plus simple de débarquer avec un EP, parce que j'ai créé mon propre label, appelé Coco Glam Records. Et donc, j'ai fait cette sortie physique pour avoir un livret avec les belles photos du clip, les paroles qui sont toujours au second degré, et je pense que c'est intéressant de les lire. Et il y a pas mal de personnes qui me demandent de les avoir. Les fans, le peu de fans qu'il y a, mais les vrais fans d'Olga Bost. J'ai effectivement des morceaux qui sont que écoutables sur CD, notamment Coco, le sexe et l'amour, qui est la balade rock de l'album, que j'adore, que je pense que c'est ma meilleure composition, qui est en piano voix, qui est superbe, mais que j'ai pas envie de défendre dans l'esthétique dans le combat esthétique que je veux mener, on va dire.
Ce que tu as oublié de dire, c'est qu'effectivement, tu chantes en français, mais le glam, on l'associe pas à la langue française.
Oui, c'est vrai.
Donc là aussi, c'est une particularité quand même. Et ça, c'est un vrai choix.
C'est aussi une lutte et un combat interne et externe, ce truc-là. C'est que moi, je viens du jazz, je viens de la soul. J'ai toujours chanté en anglais. Depuis que je suis toute petite, je fais du yaourt. J'ai toujours été fascinée par la culture américaine, du show, la culture anglaise, que je connais pas tant que ça. Enfin, je connais Bowie, etc. Mais pour moi, je trouve qu'il y a peu de chanteurs français qui arrivent à faire sonner les mélodies comme on arrive à les faire sonner en anglais. On en avait parlé avec Wendy Martinez il y a pas très longtemps, et c'est un combat que j'ai envie de tenter de mener, d'essayer de faire sonner des paroles en français qui sont sexy, quoi.
Et écoute, on va écouter un de tes titres, Dans le noir.
Une larme d'air respire, elle tombe de toi, j'embrasse chaque souffle sans patience. Au fond du gouffre creusé hier, je vois dans le noir.
courage qu'il nous faut. Je tombe avec toi de haut. Je tombe avec toi. T'envoyer en l'air, mieux qu'on le dit, taire la peur et plaire au vide. Je ne vois plus le pire, je respire. M'envoyer en l'air, mieux qu'on le dit, taire la peur et plaire au vide. Je ne vois plus le pire, je respire.
Dans le noir d'Olga Albos, on te remercie.
Nous poursuivons avec toi cette émission et les aventures d'un personnage que tu as rencontré au musée gallo-romain. Bricius Maximus, qui est-il ?
Alors l'exposition présente les aventures de Bricius Maximus, l'exposition en briques Lego, pour l'intitulé complet, à Luc Dunhomme, musée et théâtre romain. Incroyable exposition qui vous érige en détective dans un univers réalisé avec 19 000 briques Lego. En début de parcours, 4000 briques Lego composent et présentent le héros, Bricius Maximus, un légionnaire romain proche de la retraite, qui soupçonne le gouverneur de Bretagne, Claudius Albinus, de vouloir renverser l'empereur romain afin de prendre le pouvoir. Bricius Maximus devient agent secret, chargé de porter une importante missive pour contrer la menace. L'épopée commence. Plus que simplement suivre la mission secrète de Bricius Maximus, vous participez, tel des James Bond, car il s'agit quand même de sauver l'Empire, à une expédition de plus de 4 mois au 2e siècle après Jésus-Christ, jonglant entre laissez-passer, guet-apens à éviter, énigmes à résoudre, en utilisant tour à tour navire, voiture, cheval ou mule chargée. Une odyssée servie par une superbe scénographie. Luc Dunhomme, musée et théâtre romain, ne faillit pas comme à son habitude sur ce point. La scénographie est non seulement éco-responsable, mais aussi dynamique, colorée, interactive et ludique grâce aux 40 reconstitutions minutieuses en briques Lego qui dialoguent avec des œuvres antiques du musée. La pédagogie ludique, axe fort du musée, est confortée par la signification du mot Lego, qui veut dire, en danois, qu'est-ce que ça veut dire Lego ? Joue bien ! Et en latin, je rassemble. En tant que visiteur-acteur des aventures de Bricus Maximus, vous allez, au fur et à mesure de la mission, acquérir de nombreuses clés permettant de mieux connaître et comprendre la structure et l'organisation de l'Empire romain. Voies de communication, campagne, ville, soldats, architecture civile, militaire ou religieuse, mais aussi la vie quotidienne. Tout est incroyablement reconstitué en briques Lego, les détails fourmillent et pour n'en perdre aucun, des petites lampes de poche sont mises à votre disposition. Le musée valorise sa collection en vis-à-vis des reconstitutions en Lego. Par exemple, derrière Bricus Maximus confectionné avec 4000 briques Lego, en début de parcours, figure une vitrine avec une épée confirmant qu'il est bien légionnaire, une stèle avec l'insigne des soldats frumentaires certifiant qu'il est espion, et enfin un étui pour missive validant l'objet de sa mission. Autre exemple, le domaine funéraire abordé en Lego avec, en regard, une sculpture en bronze du musée, c'est Cerbère, fameux chien à trois têtes, gardien de la porte des enfers. Vous décelez une catapulte dans une maquette Lego ? Son équivalent, matériel, donc une réelle catapulte, figure juste à côté. Ces effets miroirs sont éloquents et instructifs. Plusieurs installations interactives ponctuent le parcours et éclairent le quotidien de l'Empire. Exemple, les soldats frumentaires étaient-ils instruits ? La réponse est oui. Un atelier le confirme avec une écriture au stylet sur plaque d'argile, écriture avec calame et fabrication d'un sceau, garantie de l'authenticité d'une missive. Et la toilette ? Direction les thermes, avec la présentation d'un nécessaire de toilette jusqu'à une pince à épiler spécifiquement restaurée par le musée pour l'exposition. Lors de votre mission secrète, vous pourriez aussi avoir une petite faim. Que manger au 2e siècle après Jésus-Christ ? Soulevez des couvercles et découvrez le menu entrée, plat, dessert avec un dispositif olfactif. Les aventures de Bricus Maximus se vivent, se touchent, se construisent en puzzle, se sentent et s'écoutent dans des casques audio, casques romains bien évidemment. Les visiteurs dotés d'un sens aigu de l'observation joueront à « cherche et trouve » qui frôle le défi puisqu'il faut retrouver dans les briques Lego les protagonistes de l'histoire, soit Bricus Maximus, sa femme Metella et leurs enfants Bricia et Primus. Défi récompensé pour les plus valeureux par le gain d'une affiche de l'exposition. Le monumental atelier Luc Dubric, ma ville romaine en briques Lego, clôt le parcours. Vous pouvez participer, sur inscription, à la construction d'une ville romaine géante. 500 000 briques Lego sont mises à disposition. 500 000. Enfin, un livre disponible à la vente, Les aventures de Bricus Maximus, édité par Faton Jeunesse en partenariat avec le musée, parachève la visite. Écrit par Gérard Coulon, il a nécessité 880 heures de travail d'illustration, gageur relevé par l'artiste lyonnais Théo Chou, qui a également conçu les illustrations des panneaux qui rythment le parcours de l'exposition. L'exposition, donc Les aventures de Bricus Maximus, l'expo en briques Lego, est programmée à Luc Dunhomme, musée et théâtre romain, jusqu'au 9 juin 2024. Plus d'informations sur lucdunhomme.grandlyon.com.
Merci beaucoup, Gaëlle, ça donne vraiment envie. Hein. Nous terminons avec ta lecture, Thomas, sur les traces d'un des 62 courts textes de l'américain Richard Brautigan, dont le livre intitulé La vengeance de la pelouse, datant de 1970, édité par Titre 2004, ou que l'on trouve également au 10-18 Domaine étranger. On t'écoute et puis on parle de cet auteur juste après ta lecture.
Le temps qu'il fait à San Francisco. C'était un après-midi nuageux et un boucher italien vendait une livre de viande à une très vieille femme. Mais Dieu seul sait ce qu'une femme si vieille peut bien faire d'une livre de viande. Elle était trop vieille pour tant de viande. Peut-être Était-ce pour une ruche et peut-être avait-elle 500 abeilles dorées à la maison qui attendaient la viande, leur corps gorgé de miel ? Qu'est-ce que vous voulez comme viande aujourd'hui ? Dit le boucher. Il y a du bon hamburger, bien maigre. Je ne sais pas, dit-elle. Ce n'est pas la même chose, le hamburger. Oui, bien maigre. Je l'ai haché moi-même. J'ai mis beaucoup de viande maigre dedans. Du hamburger, il me semble que ce n'est pas ce qu'il faut, dit-elle. Si, dit le boucher, c'est tout à fait le jour pour du hamburger. Regardez dehors, il y a des nuages. Certains de ces nuages sont gonflés de pluie. Moi, je prendrai du hamburger, dit-il. Non, dit-elle, je ne veux pas de hamburger, et je ne crois pas qu'il va pleuvoir. Je crois que le soleil va se montrer, et ce sera une belle journée, et je veux une livre de foie. Le boucher était stupéfait. Il n'aimait pas vendre du foie aux vieilles dames. Il y avait quelque chose là-dedans qui le mettait très mal à l'aise. Il ne voulait plus lui parler. À contre-cœur, il coupa une livre de foie d'un énorme morceau rouge, l'enveloppa dans du papier blanc et le mit dans un sac brun. Tout cela lui était très désagréable. Il prit l'argent, lui rendit la monnaie et retourna à son étal de volaille pour essayer de se calmer. En se servant de ses os comme des voiles d'un navire, la vieille femme sortit dans la rue. Portant le foie comme si c'était un trophée, elle alla jusqu'au bas d'une rue en pente. Elle la monta, et comme elle était très vieille, cela lui était pénible. Elle se fatiguait, et plusieurs fois avant d'arriver en haut, elle dut s'arrêter pour souffler. C'est en haut de la rue qu'elle habitait. Une haute maison de San Francisco, avec de larges baies qui reflétaient un ciel couvert. Elle ouvrit son sac à main, qui ressemblait à un petit champ en automne, et près des branches tombées d'un vieux pommier, elle trouva ses clés. Puis elle ouvrit la porte. Cette porte était une vieille amie en qui elle avait confiance. Elle lui fit un petit signe de la tête et entra dans la maison, puis, au bout d'un long corridor, entra dans une pièce qui était pleine d'abeilles. Il y avait des abeilles partout dans la pièce. Des abeilles sur les chaises, des abeilles sur la photo de ses défunts parents, des abeilles sur les rideaux, des abeilles sur un très vieux poste de radio autrefois à l'écoute des années 30, des abeilles sur son peigne et sur sa brosse. Les abeilles vinrent vers elle et l'entourèrent affectueusement, tandis qu'elle défaisait le paquet et posait le foie sur un plateau d'argent obscurci qui se transforma bientôt en un jour de soleil.
Quelle étrange histoire ! Qui est Richard Protican ?
C'est un auteur, écrivain bien connu de la Beat Generation. Il a disparu à 49 ans, ce qui est mon âge et ce qui tout d'un coup m'a stupéfait. Donc j'ai choisi ce texte. Bon, je suis fanat de textes courts, hein, exactement sur ce format-là. Moi, ça me ravit de revenir sans cesse à ce type d'auteur, en fait.
C'est vrai qu'on le voit accompagnant finalement des auteurs bien plus célèbres que lui. Qu'est-ce qui fait qu'il est moins célèbre que Harrison, par exemple, qui était un de ses amis ?
Je pense, enfin, moins célèbre, en tout cas, c'est en France. Je ne sais pas sa notoriété aux États-Unis, mais en France, de toute façon, on a on est moins orienté vers le texte court, beaucoup moins. Et je pense que c'est une explication. C'est moins le style qui fait ça, je pense, que le format. En France, la nouvelle n'existe pas. Enfin, c'est caricatural de dire ça, mais c'est extrêmement marginal. Peu de gens lisent des nouvelles. Et peu d'auteurs français se tournent vers la nouvelle. C'est plutôt les revues qui font vivre la nouvelle aujourd'hui en France. Et sinon, on se tourne de temps en temps vers un auteur un peu connu pour aller lui extorquer quelques nouvelles, mais c'est pas la forme obligée en France. En France, on est sur le roman roi quand même. Hein.
Personnellement, moi, j'adore la nouvelle. Je suis un peu comme toi. J'adore ces textes courts. Et effectivement, ici, dans ce texte, avec toujours un titre tout à fait incroyable, hein, La vengeance de la pelouse. J'adore. Hein, après le soleil plouc la semaine dernière, tu nous ravis.
Et dans les deux cas, ça finit par un soleil, si tu as vu.
C'est vrai. Absolument. Merci beaucoup Thomas d'être venu ensoleiller notre émission. Nous terminons comme chaque semaine avec nos coups de cœur, nos fameux Gédéon. Guillaume, avec quoi es-tu venu ?
Alors moi, je suis venu avec le disque de l'année. Alors je sais, je dis toujours que c'est le disque de l'année, très bien.
Tu nous le fais chaque semaine, ouais, le disque de l'année,
non,
hein, quand
mais
même.
Vraiment, là, c'est un disque important. Enfin, pour moi, c'est un disque important. Donc, c'est un artiste qui s'appelle Signal Faible. D'accord. Et ce type de, d'album, c'est Nom de Domaine. Moi, j'aime bien. Et puis, comme vous pouvez le voir, évidemment, à la radio, on voit rien. Mais enfin, j'aime beaucoup les illustrations qui.
Oui, ça évoque Tintin.
Oui, un petit peu.
L'intérieur, exactement. En fait, hein, des bandes dessinées de Tintin.
Tout à fait. Alors, signal faible pour ceux, les auditeurs les plus âgés d'entre nous, dont je fais partie, en fait, c'est Nicolas Falaise qui avait un groupe qui s'appelait Superflu dans les années 90, qui était vraiment un groupe, on va dire, underground, pas très connu, et puis qui méritait d'être beaucoup plus connu, mais qui voilà, n'a pas eu le succès escompté. Et donc là, il sort effectivement un album qui s'intitule Nom de Domaine. Et la particularité, si vous allez sur Internet, c'est que depuis à peu près 6 mois, 7 mois, il sort une vidéo pour chaque titre de l'album. Et ces vidéos sont faites un peu, ben, c'est DIY, c'est vraiment, on fait ça à la maison avec soit des caméras Super 8, soit... Enfin voilà, c'est vraiment un peu à l'ancienne, quoi. Et c'est absolument admirable. Alors évidemment, il y a pas mal aussi de gens qui participent à ce disque. Ça, il a demandé en fait à d'autres artistes, il a écrit ses chansons et puis ensuite il a demandé à des gens qu'il appréciait de participer. Donc par exemple, il y a une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Lonnie. Il y a un artiste belge qui a un projet qui s'appelle Cabane, qui jouait dans un groupe dans les années 90 qui s'appelait Vénus, qui a eu son heure de gloire. Il y a un artiste qui participait à un groupe qui s'appelait Mercury Rêve. Il y a Sing Sing d'Arlt. Il y a un groupe qu'on connaît très bien à Lyon qui s'appelle The Marianne Monk. Voilà. Il y a Sylvain Vanneau. Enfin bon, il y a plein de gens. Et c'est vraiment un disque super, c'est sobre. Souvent c'est guitare-voix, mais c'est plus que ça. Et voilà, c'est un disque que je trouve admirable. On est happé par les textes. Signal faible. L'album s'appelle Nom de Domaine. C'est sur un label qui s'appelle Kuroneko, qui sort beaucoup d'artistes émergents. Et ça a été fait grâce aussi à ce site internet qui s'appelle Microculture, qui permet évidemment de produire des disques pour pas trop cher et de sortir des choses admirables. C'est vraiment un disque admirable.
Gaëlle, avec quoi es-tu venue cette semaine?
Alors, mon Gédéon de la semaine est le film Anselme, le bruit du temps de Wim Wenders, récent lauréat du 15e prix Lumière. L'artiste Ansel Kiefer et le réalisateur Wim Wenders sont quasiment des jumeaux. Nés tous deux en Allemagne en 1945 à 5 mois d'écart. Le premier un peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le deuxième un peu après. 1945, époque où l'Allemagne en ruine doit se réinventer. Avec une condition, oublier le passé, ou pour certains, faire comme s'il n'avait pas eu lieu. Or, la démarche plastique d'Ansel Kiefer est l'extrême inverse. Elle affronte le passé avec de monumentales installations qui luttent contre l'oubli. Quand vous voyez Ansel Kiefer faire du vélo, les images du film sont issues de son actuel et gigantesque 35 000 m² atelier à Croissy-Beaubourg, à l'est de Paris. Mais Wim Wenders axe principalement son film sur la Ribaute, à Barjac, dans le Gard. La Ribaute était l'atelier résidence de 40 hectares, dans lequel Ansel Kiefer a créé pendant près de 30 ans. Cet immense et incroyable site, devenu la fondation de l'artiste, vous pouvez la visiter, comprend des cryptes souterraines, des pavillons et un amphithéâtre couvert. Le tournage du film a été long car Wim Wenders souhaitait filmer le lieu ponctué de différentes saisons comme une invitation à la notion de cycle. Long aussi car tenter de saisir Ansel Kiefer est un exercice périlleux. Tant les références à l'histoire, l'alchimie, la philosophie, les mythes et l'astronomie sont, chez l'artiste, denses. Avec Ansel, le bruit du temps, Wim Wenders offre une incroyable expérience de cinéma en 3D, c'est rare pour le cinéma d'auteur, mais dispositif qui, selon le réalisateur, offre une rencontre rapprochée, en mobilisant une partie plus importante du cerveau et de nous-mêmes. Idée corroborée par Ansel Kiefer lorsqu'il souligne, en parlant de sa démarche artistique, « En fait, j'ai tendu un miroir à chacun ». Film viscéral, bouleversant et poignant, je rappelle le titre « Ansel, le bruit du temps » de Wim Wenders.
Merci beaucoup Gaëlle. Je vais terminer pour moi, ce sera littérature avec le dernier livre de Dimitri Kantchelov, Vie et mort de Vernon Sullivan. Il est question de Boris Vian et de l'histoire de son double littéraire que l'auteur va créer avec la complicité de son ami l'éditeur Jean Dalluin, des éditions du Scorpion en 1946. Dimitri Kantchelov est né à Lyon en 1981. Il a travaillé dans la communication et la publicité à Paris, vie pendant plusieurs années, installée depuis 2014 dans le Var. Son premier livre, Supernova, est un roman paru aux éditions Les Avrils. J'avais aimé le style et le sujet des effets de l'homme moderne sur la nature, sans pour autant tomber dans une culpabilisation énorme. Il revient aux affaires avec un personnage flamboyant à la carrière très courte, Boris Vian, bien sûr. Il est décrit par l'auteur comme un homme pressé. Il sait que sa santé ne lui permettra pas de dépasser les 40 ans. Il veut marquer les esprits. Après-guerre, il désespère dans son petit bureau de l'Office des industries et des commerces du papier et du carton. Oui, il est ingénieur et trouve tout trop petit. Il va écrire un best-seller en 2 semaines. « J'irai cracher sur vos tombes » est né de cette urgence de renverser les codes, de choquer la morale bourgeoise étriquée d'une époque. Son double de papier, Vernon Sullivan, est américain, noir, alcoolique, et Boris Vian sera son traducteur. Je ne vous en dis pas plus, c'est un livre pour les amoureux de la littérature et de l'invention, de la fiction, mais aussi de la supercherie sérieuse. Bonne lecture, bonne semaine, à bientôt.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.